Merci d'être avec nous ce soir pour donc cette nouvelle rencontre autour de la bande dessinée avec des acteurs majeurs de la bande dessinée. Donc Florence Sestac, que j'ai nommée, qui est la cofondatrice des éditions Futuropolis, qui est également auteure de plusieurs albums de bande dessinée. Comment? Autruche, oui, comme on dit maintenant. Oui, Autruche, voilà. En parlant d'Autruche, Yoann de Mort, qui s'est distingué avec La Vache, Lait entier, qui est un auteur également qui œuvre depuis une vingtaine d'années, je crois, à peu près, 25 ans. Et puis Jean-Pierre Fleury et Francky Ballonnet des Requins Marteaux, qui sont donc à la fois responsables de cette structure, responsables réels et fictifs. Je crois que vous aurez le temps.
Bonsoir, c'est toujours un plaisir de rencontrer nos clients.
Et oui, car la bande dessinée, c'est aussi un marché. Et il en sera question, notamment dans le film que vous verrez en deuxième partie de soirée, comme on dit à la télévision. Entre quatre planches, film de fiction. Peut-être que d'ailleurs, Francky, vous pourriez évoquer le générique très succinct de ce film, les réalisateurs, le scénariste, ou plutôt l'inverse, des scénaristes et le réalisateur.
C'est un film qui se résume assez facilement, c'est-à-dire jusqu'où peut-on aller pour réussir?
Tout un programme. Florence, je vais tutoyer beaucoup les gens parce qu'en fait on se connaît, donc
Oui, ça va.
ce sera plus facile. Tu as commencé dans la parodie, en fait, avec ton personnage le plus connu, c'était Harry Mixon, qui
C'est
était à
ça.
la fois une parodie de Harry Dixon de Jean Rey, et puis aussi de Mickey, un petit
Voilà, c'est
peu.
ça. C'est donc la mascotte des éditions Futuropolis.
Tu peux rappeler peut-être ce qu'était Futuropolis?
Futuropolis a d'abord été une librairie spécialisée en bande dessinée, et puis très vite une maison d'édition qui a duré pendant 15 ans, et qui existe toujours d'ailleurs, parce qu'elle s'est fait racheter par Gallimard, et donc je m'en suis occupée. Et donc la mascotte des éditions Futuropolis, c'était une espèce de rat avec un gros nez, toujours gros nez, ça c'est ma marque de fabrique, et c'était Harry Mixon, voilà. Donc c'est mon premier personnage avec lequel j'ai commencé à faire de la bande dessinée.
La parodie, là je m'adresse un peu à tout le monde, est un des genres que la bande dessinée apprécie particulièrement. D'ailleurs, est-ce que Johan, on peut considérer que La Vache est une parodie des films noirs, et ou aussi un petit peu de la bande dessinée belge classique?
Quoi, la parodie?
Oui.
La Vache?
Oui.
C'est une parodie de...
Des films noirs, des films d'aventure.
Ah, je n'ai jamais pensé à ça.
Même Humphrey Bogart, un petit peu.
Oui, mais bon, on fait les choses tout d'un coup, et puis
Ça commence
c'est
bien.
après que.
J'attendais pas autre chose.
Non, non, mais on commence à dessiner, on commence à déconner un peu sur des dessins, et puis on se constate que les gens y retrouvent des références que probablement je porte moi-même. Et voilà, et ça fait un tout. Mais moi, le principal, c'est que si c'est possible, j'essaye de m'amuser avec ce boulot, quoi. Donc, évidemment que j'ai plein de références que je porte en moi, tout ce que je connais et ce que je ne connais pas encore. Donc, ça me passionne. Je ne suis pas belge. Hein,
non, tu es européen, bien sûr, comme nous tous. Et c'est vachement bien d'être européen. Tu es aussi porteur d'une dimension un petit peu politique, ce qui est subversif, disons. Un petit
Ah
peu.
bon?
D'accord.
Non, mais c'est-à-dire que je travaille dans des journaux, je fais toutes les semaines 6 à 7 cartoons, comme on dit, sur la vie politique belgo-belge, mais je préfère de temps en temps les choses internationales.
Il y a beaucoup de références à la propagande communiste, quand même.
Ah oui, voilà. Maintenant, maoïste aussi, et sado-maoïste aussi, et marxiste, et voilà, donc tout ça me passionne énormément. Mais avant, je faisais
de la
des
guide
tableaux.
propre, aussi.
Pardon?
De la guide propre, mais bon, c'est autre chose.
Oui, je faisais des fresques d'environ 150 mètres carrés avec des ouvriers socio-réalistes au Portugal, entre autres, à Lisbonne, à la Révolution des œillets. Et les Portugais qui passaient devant disaient: oui, c'est pas mal, mais on dirait des ouvriers belge de charbonnage, donc ça ne ressemblait pas du tout à la classe ouvrière portugaise. Donc ils m'ont licencié, ça commençait bien. Et voilà, donc ça m'a. Mais plus on s'occupe de politique, plus on devient sérieux. Donc j'ai préféré ne plus parler de politique, mais en parler ou en dessiner. Donc c'était plus. Mmh. Mais ce n'est pas toujours évident parce que les gens n'aiment pas beaucoup rigoler ces derniers temps.
Oui, tu trouves?
Oui, parce que quand on commence à s'attaquer à certaines choses, apparemment, ça énerve beaucoup de gens.
Tu peux citer des exemples personnels?
Ah, moi, j'ai déjà eu 2-3 petits procès sur de tous bords. Enfin, bon, parce que nous, on a un parti très rigolo en Belgique qui s'appelle le Vlaams Belang, qui est avant le Vlaams Blok, ah oui. Qui sont le FN, c'est du pipi de cheval à côté de ça. Et j'ai fait quelques dessins, parce que c'est des salauds en costume. Hein. Et donc, il faut se méfier, ce sont des technocrates, l'extrême droite technocrate. Et j'ai fait des dessins, donc j'ai eu quelques problèmes. Ils ont porté plainte pour des dessins, etc. Donc, et voilà.
Et un des...
Le pape aussi, lui-même n'a pas porté plainte, mais certains lecteurs...
Mahomet, non.
Comment?
Mahomet, pas encore, non.
Nix a eu des problèmes, par contre.
Oui, aussi, oui. De plus en plus, on veut nous donner des codes de bonne conduite sur le dessin de presse, mais foutez-nous la paix, quoi. Et voilà, donc...
Ça, c'est une dimension qui est importante aussi chez les requins-marteaux. Est-ce que, Jean-Pierre, tu peux définir... Jean-Philippe, pardon, excuse-moi, Jean-Philippe. Est-ce que tu peux définir la motivation de départ des Requins Marteaux, qui est donc un éditeur dit indépendant, comme on dit, ou alternatif, si on préfère?
Bah, la motivation de départ, c'est une bande de RMistes, en fait, qui avait une seule envie, c'est occuper une part de marché qui semblait libre, à savoir la bande dessinée indépendante. Donc, nous avons investi ce créneau-là en démarrant aux alentours de 0,01%, je vais dire, en termes d'implantation. On est à peu près à quoi, là? 15 environ?
Ouais.
Et grâce à des ouvrages comme Gardulot et Zapata en particulier, où on a quand même essayé nous aussi hein, d'avoir des procès réellement, hein. C'est-à-dire dans Gardulot et Zapata, on utilise quand même des personnages de Star Wars, enfin, on était sûr que Georges Lucas allait nous intenter un procès. Bon, ça n'a pas marché, mais on espère suivre votre exemple, très clairement. Voilà. Sinon, les Requins Marteaux, c'est un groupe, comment dire, un peu informel, quoi. Donc, mais Fred peut en parler peut-être un peu mieux, comme en fait sur l'informel. Fred?
Oui, Jean-Pierre, c'est tout à fait. c'est un groupe assez homogène, les Requins Marteaux, puisque tout le monde a à peu près le même salaire, on va dire. Et puis, puisqu'on parlait de parodie tout à l'heure, eh bien, nous aussi, on s'inscrit dans la parodie par rapport à ces fameux salaires. Et oui, sinon, on a souvent pensé qu'on aurait des procès, notamment avec la BD d'Émile Bravo dans Ferrailles numéro 27.
Sur Blake et Mortimer.
Ouais. Et on n'en a pas eu. On a eu juste une lettre. Donc je pense que c'est un problème de lectorat, en fait. On n'en a pas assez encore.
Merci, Patrice.
Françoise, donc... non, pardon, Florence.
Maurice.
On va continuer. Le fait d'être une auteure, il y avait Brett Eschet aussi déjà avant toi, mais c'est très tarte à la crème. Hein, c'est le genre de questions qu'on doit te poser au Journal de France 2 quand on n'a pas de questions à te poser. Mais d'être une auteure femme, et en plus qui fait de l'humour, est-ce que ça te donnait un statut très particulier où tu as toujours été bien accueillie par tes... collègues, parce que le monde de la bande dessinée était encore il y a peu de temps très très masculin.
Oui, mais bon, moi j'ai toujours pu me faire éditer et pu faire ce que j'avais envie de faire, donc ça m'a jamais posé de problème. Mais c'est vrai que le monde de la bande dessinée est un milieu très masculin, donc c'est dur de faire ça. Mais je crois que c'est à cause des femmes qui sont pas à l'aise avec ce mode de narration, quoi, et qui ont pas été habituées petites à lire de la bande dessinée peut-être. Ce qui explique qu'il y en ait si peu qui en fassent maintenant. Mais bon, ça bouge un peu. Mais effectivement, oui. Moi, quand j'étais petite, on enfilait aux petits garçons, on n'enfilait pas aux petites filles. Oui. Donc moi, j'étais un peu perverse et j'en piquais, j'en lisais en douce. Quoi. C'est une petite Madeleine, moi, la BD. Donc j'étais déformée par ça.
Mais on sent un changement qui s'amorce.
Oui, ça bouge. Oui,
bizarrement.
Oui, il y a des filles qui arrivent.
Et quand tu as posé un regard sur, justement, les hommes... mur, on va dire, par exemple dans Le Démon de Midi, là il n'y a pas eu de réaction négative non plus.
Ceux qui ont pas d'humour, oui, il y a des réactions un peu violentes, mais.
Oui.
Voilà, tant pis. Hein. Mais c'est ça l'humour, c'est qu'il faut que ça dérange un peu, sinon c'est pas. Il faut un peu titiller là où ça fait mal. Mmh. Sinon c'est pas la peine. Non.
Absolument.
dans la bande dessinée.
On doit titiller là où ça fait mal, ouais, effectivement. C'est là où, honnêtement, je pense que là, autour de cette table, on a un certain type d'humour qui n'est pas forcément l'humour le plus répandu en bande dessinée, de toute manière. Mais c'est le meilleur. Oui, honnêtement, hein, sans parti pris aucun, bien sûr.
Justement, pendant des années, la bande dessinée était très classique dans l'humour. C'était souvent des gags, parfois très drôles, mais pour des raisons presque politiques, puisqu'il y a la commission qui sévit toujours, la commission du 16 juillet 49, qui peut à tout moment interdire n'importe quel livre, puisque c'est toujours important de le rappeler. Elle s'applique à non seulement aux ouvrages destinés à la jeunesse, mais à tous les livres susceptibles d'être lus par la jeunesse. Mais est-ce que vous avez senti, toi, Johan, en fait, quand tu as commencé à être dessinateur, tu n'es pas allé tout... Bon, on va pas replacer ton contexte généalogique, mais disons que tu es d'une famille où on dessinait déjà avant toi, enfin, surtout ton père.
Je dessinais bien.
Oui, il dessinait bien, en plus. Et il dessinait pas du tout dans le même registre que toi, quoique certaines histoires des débuts étaient... de la BD flamande était peut-être plus... justement, peut-être plus subversive que la BD belge francophone.
Plus absurde.
Oui. Van der Steen, par exemple, n'hésitait pas à parler du Quart-Monde ou de choses comme ça. Enfin, sans dire, je fais une BD sur le Quart-Monde.
Du Tiers-Monde aussi.
Ou du Tiers-Monde, oui.
De tout le monde, mais c'était quelqu'un... Van der Steen, en fait, ce qu'il y avait dans les journaux flamands, c'était des suppléments pour les petits garçons et les petites filles. Et ces chers dessinateurs faisaient 2 ou 3 strips par jour. Donc... ils étaient obligés de continuer leur scénario le lendemain, mais comme ils sortaient aussi et ils buvaient aussi des bières, etc., ils n'avaient pas bien construit leur synopsis, et il se faisait qu'ils tombaient dans une narration un peu absurde. Mais c'est devenu une tradition, pas de boire des bières avant de faire son synopsis, mais d'avoir des histoires complètement absurdes. On a des types en Flandre qui sont absolument inconnus au-delà de la frontière linguistique ou en France, et qui vendent 300 000 albums comme Urbanus et des choses comme ça, qui sont complètement inconnus, mais qui ont leur public en Flandre. Et ce sont des histoires humoristiques, comme c'est pas possible, se foutant de tout, et ça a un succès immense. Donc c'est très bizarre comme il y a une sorte de... dans ce petit enclos flamand, des types qui sont... Mais il y a une tradition depuis une éternité. Vous savez, les Flamands, on leur a toujours dit qu'il fallait la fermer parce qu'on a été envahis par les Français, les Autrichiens, les Espagnols, etc. Donc on a toujours dû se taire. Donc la seule chose qu'on savait faire, c'était un peu dessiner. Donc maintenant, cette tradition continue, on essaie un peu de parler. Mais donc on aime bien... Ce côté absurde était... Donc je suis toujours étonné quand... on va au-delà de la Flandre, par exemple. Ce n'est pas la même chose que la Wallonie ou Bruxelles. Et là, il y a comme ça une culture où, petit à petit, on parle de tolérance, on essaye d'aller plus loin. Mais en Flandre, il y a une habitude de se foutre un peu de tout. Mmh. Et oui. En bande dessinée, hein, très particulièrement en bande dessinée. C'est beaucoup moins vrai dans les nouvelles, dans les romans ou dans le cinéma, mais particulièrement en bande dessinée. C'est pour ça qu'il n'existe pas en Flandre une bande dessinée adulte, puisque là, les gens trouvent que c'est soit du sexe ou de la violence. Il ne reste que... la bande dessinée humoristique, et c'est assez marrant.
Donc c'est ce qui t'a permis peut-être effectivement de te pencher vers la BD d'humour, enfin pas d'humour d'ailleurs, puisque tes débuts ne sont pas du tout humoristiques.
Non, mais... c'est d'une tristesse incroyable.
Non, oui. Pas d'une tristesse, mais disons assez, assez fantastique, merveilleux, un peu Jérôme Bosch, un petit peu cette ambiance, plus la Belgique fantastique. Quoi.
Enfin, oui, oui.
Mais voilà. C'est finalement avec La Vache que tu as fait le lien entre tes dessins plus libres, oui. Puisque, bon, pour être clair, tu viens de la ligne claire, c'est le cas de le dire, et que tu as su quand même te réunir tes deux personnalités, peut-être aussi.
Oui, mais c'est un... c'est une gageure, hein, parce que la bande dessinée a des codes, la bande dessinée dite commerciale a des codes très précis. Et je ne me suis pas attelé à ce qu'on devait m'apprendre ou à ce que j'aurais dû suivre. Et j'ai préféré exposer la planche, exposer avec Stephen Desberg le scénario, etc. Ça a donné ça. Mais je sais que ça rebute aussi certains lecteurs parce que ça n'a pas les codes classiques de lecture, d'image. Je change complètement de style toutes les 3-4 planches. Mais jusqu'ici... j'ai carte blanche, donc on ne m'ennuie pas.
Il faut dire que tu fais des collages, que tu fais du détournement. Sans être verbeux, on pourrait presque dire que tu as une démarche situationniste, presque. Hein, qui n'est pas très éloignée de celle des requins-marteaux aussi.
Oui, mais
surtout à travers M. Ferraille.
Le temps et on est tous un peu en train de chercher des choses différentes, peut-être. Et que j'en ai un peu soupé, d'Hergé, des choses comme ça. Puisqu'on me l'a nourri au biberon, donc peut-être que... voilà. On cherche d'autres éléments humoristiques. Et là, le contenu donne la forme, ça c'est clair. Quand on a un personnage comme une vache qui a un numéro de code, qui est Pi 3-14-16 et qui se déambule parmi d'autres animaux qui vivent à côté de nous, etc. Forcément, le style, on ne peut pas le faire... tu vois ce que je veux dire, hein?
Propre.
Peut-être. Oui, mais je travaille très soigneusement et très proprement, mais... Voilà, donc... et puis j'ai toujours aimé le pop art et des choses comme ça, mais je suis un très mauvais peintre, donc la bande dessinée c'est un art populaire, mais dans le bon sens du terme, donc on peut soigner son boulot et se dire peut-être qu'il y a de bonnes choses là-dedans. Mais le scénario reste pour moi le plus important, c'est ce qui va donner la forme, ça c'est clair.
Qu'est-ce qui a décidé les requins-marteaux à se positionner plus particulièrement dans l'humour et dans... mais pas du tout dans le même registre que Flux Glacial, pour donner un exemple bien connu. Même si Flux Glacial, les débuts étaient différents de celui d'aujourd'hui.
Mais disons qu'en fait, nous, on n'a pas de ligne particulière. On publie ce qu'on aime. Il se trouve qu'on a plus d'humour que d'autres choses. Mais on n'a pas une vocation à être drôle. Tu veux rebondir peut-être ? Non.
En fait, on essaie, je pense surtout, d'aller toujours un peu plus loin que ce qui est tolérable. Et là, on n'est pas très loin, là, je crois.
Et qu'est-ce qui vous a décidé à avoir une action, une action en dehors de la bande dessinée ? Puisqu'il y a eu le supermarché Ferraille, le musée Ferraille.
Ça, je pense que très honnêtement, c'est le hasard.
Mais faut raconter.
Mais vraiment honnêtement, c'est le hasard. C'est-à-dire, partant de livres de bande dessinée dans un centre culturel qui ressemblait très étrangement à un hall de supermarché, l'idée est venue de transformer ce lieu en supermarché et donc de se faire, entre guillemets, des couilles à l'or avec la culture. Ça nous a valu un nombre de problèmes totalement incalculables. Ceci étant, ça a suffisamment fonctionné pour qu'après, l'année d'après, le supermarché soit monté grâce à certaines personnes qui sont autour de cette table d'ailleurs, je crois, soit monté à Angoulême, plus la suite, quoi. Et le musée est arrivé après, et puis le film.
Alors il faut expliquer, parce que le supermarché Ferraille et le musée Ferraille, si on n'est pas du tout au courant, c'est peut-être un peu hermétique.
Alors le supermarché Ferraille, il s'agissait de... Bon, vous savez tous que le festival d'Angoulême est sponsorisé par les établissements Leclerc.
Entre autres,
nous trouvons tout à fait normal, en fait, c'est son choix, hein, que M. Leclerc s'intéresse à la bande dessinée. Et donc, nous avons décidé, nous, en tant que faiseurs de bande dessinée, de nous intéresser au supermarché, ce qui était, un effet de réciprocité assez, qui nous paraissait assez convenable, quoi.
Bon, je crois que ça dérape un peu, mais... oui, non, c'était très bien. J'adore cette intonation de voix. Ça me plaît, ça m'y... Noptise. Donc le supermarché, finalement, qu'est-ce que ça a été ? Ça a été, on avait une expo à faire à Albi. Enfin, vous êtes friand d'anecdotes, je suppose. Donc on avait une expo à faire à Albi et il s'est trouvé qu'au dernier moment, on n'a pas eu nos subventions. Donc il a fallu trouver une idée dans la demi-heure et on a fait un supermarché.
Alors qui était autour du Monsieur Ferraille quand même aussi. Qui est Monsieur Ferraille ?
Monsieur Ferraille. Alors ça, par contre, j'ai pas mes fiches. Monsieur Ferraille, eh bien, c'est le personnage un peu emblématique de la revue Ferraille Illustrée. Et donc on s'est dit, ce type-là, qui est vraiment un gars comme moi, je les adore en tout cas, un petit peu opportuniste et en même temps sympathique, s'il faisait un supermarché, comment il s'y prendrait ? Qu'est-ce qu'il vendrait vraiment ? Qu'est-ce que les gens aimeraient vraiment avoir dans leur panier ? Et c'est comme ça qu'on a trouvé les miettes de dauphin.
faut aller voir le site, donc Ferraille, c'est quoi l'adresse du site internet?
Oh, ça c'est simple, hein, c'est www.supermarchéferraille.com.
Qu'il faut aller visiter, parce que ça donne une bonne idée de ce qu'était effectivement le supermarché Ferraille. Et puis l'année suivante, vous avez décidé de parodier, je reprends ce terme, mais l'histoire de la bande dessinée, l'histoire du dessin animé, enfin l'histoire, disons, de tout ce qu'il peut y avoir de mass-média, enfin de loisirs, de divertissement, enfin je ne vais pas dire le mot en anglais, mais c'était ça. Mmh. Et vous êtes, donc M. Ferret, qui est un personnage récent, créé par un vrai auteur qui s'appelle Vin Schluss, vous en avez fait un personnage qui était créé par Walt et Gonzo, oui, on comprend assez bien, avec des allusions, on parlait d'Hergé, assez claires, puisque les auteurs de Walt et Gonzo ont publié Monsieur Ferraille dans des journaux pendant la guerre. Voilà.
Une sombre période pour la France, d'ailleurs.
Voilà. Et en sortant, beaucoup de visiteurs naïfs pensaient que Monsieur Ferraille était en effet un des personnages oubliés du patrimoine de la bande dessinée.
Vous soulignez bien que c'était vraiment bien fait.
Absolument. On pouvait y croire. Le papier était vieilli, mais avec du café, etc.
Non, moi, loin de moi l'idée de démarrer une polémique, hein, bien sûr. Mais on n'est pas, je pense pas qu'on s'inscrit, même, puisqu'on est plusieurs, dans la parodie ou la critique. On est vraiment notre dynamique, car j'adore ce mot. C'est plus si on pouvait faire vraiment amuser, à quoi ça ressemblerait. Et ça donne ça. Mais je pense pas qu'il y ait une volonté d'être critique par rapport à la société qui nous entoure. Parce que ça serait un peu pompeux.
Ouais, je suis moyennement convaincu, mais je comprends que tu ne souhaites pas appuyer cette dimension.
La moyenne, ça me suffit. Préparer.
Voilà. L'une des choses qui a apporté le mouvement alternatif plutôt américain avec Crumb, etc., c'est justement la dérision autour du quotidien et de l'autobiographie. Ça c'est une chose que toi tu as beaucoup pratiqué, enfin tu pratiques de plus en plus aussi. Oui. Comment est-ce qu'on travaille sur alors il y a une autre question qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que par rapport à ça il y a une spécificité de l'humour de soi en bande dessinée, puisque ce que tu as fait a donné lieu à des adaptations au théâtre, au cinéma.
Oui, oui. Mais je pense que ce qu'on raconte bien que ce qu'on connaît bien, donc à partir du moment où on prend un sujet, eh ben, enfin moi j'ai toujours fonctionné comme ça, même dans la vie, c'est-à-dire que je tourne plutôt tout en dérision et que j'ai tendance à mettre le nez de clown quand dans les moments difficiles et comme ça, ça passe mieux, quoi. Donc effectivement, je fonctionne comme ça. Donc voilà, je raconte un peu ma vie, ce qui se passe et les gens autour de moi avec mon humour à moi et je fais ma petite cuisine avec tout ça, quoi, avec toujours des personnages à gros nez. Donc j'en fais pour les enfants, j'en ai fait beaucoup pour les enfants, et la famille Desblocs.
Les Desblocs, ça s'inspirait aussi de...
Et donc, oui, parce je m'inspirais beaucoup de mon fils et ses copains et ses copines. Et voilà. Maintenant, je fais pour les ados, et donc comme mon fils a grandi, voilà, je fais les ados et pour les grands. Donc je photographie, j'écoute, je m'inspire beaucoup de ce qui m'entoure. Et avec toute ma sauce.
Et quand tu as découvert... les adaptations, qu'est-ce qui t'a semblé à la fois semblable et très différent, et qu'est-ce qui est propre à la bande dessinée dans ce registre de l'humour?
C'est-à-dire qu'on on peut jouer avec le dessin, avec le texte et tout ça, c'est une espèce de cuisine. Alors on m'a expliqué comment il fallait faire, c'est difficile parce qu'on fait passer des choses avec le dessin, d'autres avec le texte, et puis on en rajoute et tout. Une fois que c'est fait, dans le décor il y a toujours peut-être un élément qui va passer ou un truc Donc c'est un peu sans fin. Je veux dire, on peut toujours rajouter et pousser l'humour loin, quoi.
Tu n'as pas. Enfin, ce travail-là, comment est-ce que tu es passé justement de tout ce qui était référentiel à ce qu'on disait tout à l'heure, Harry Dixon, Mickey, etc. Quelque chose de plus intime. Il y a eu quelque chose de particulier ou? Ça s'est fait très naturellement.
Non, ça s'est fait tout seul, parce qu'effectivement, il y a un moment, je me suis beaucoup occupée de la maison d'édition Futuropolis, et puis quand on s'est fait racheter par Gallimard, moi je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire, c'est dessiner, et à cette époque-là, je me suis vraiment mise à faire mes histoires à moi, et donc effectivement, j'ai commencé dans ce registre-là. Donc j'ai commencé par les enfants, Et ce qui est bien avec les enfants, c'est que il faut les toucher tout de suite. Si c'est pas drôle, ils vous le disent tout de suite.
C'était dans le journal de Mickey.
C'était dans le journal de Mickey. Et donc, je me souviens, on a fait la première planche et j'ai été voir le rédacteur en chef qui m'a dit ah, c'est bien, mais il faudrait diminuer les nez. Alors j'ai dit ah, ça tombe mal parce que ça va pas aller. Et donc après, c'est les enfants qui ont voté et c'est grâce aux enfants que je suis restée. Quoi. Comme quoi, le gros nez, ça leur plaît. Et donc j'ai raconté effectivement des histoires de gamins, d'ados et puis plus tard de grandes personnes. Quoi. Mmh. Effectivement, je pense que c'est Robert Crumb qui m'a fait dessiner ce que je fais maintenant et dont je me suis inspirée beaucoup. Quoi.
Et comment réagit l'entourage? Il se reconnaît ou pas?
Il y en a qui aiment bien se reconnaître, puis d'autres pas. Donc ça dépend des gens. Quoi. Mais je pense que tout le monde peut se reconnaître, même avec le bonnet, on se reconnaît.
Il y a des thèmes universels. Mais,
oui, 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 oui. Ben, voilà.
Et Johan, je crois que tu travailles depuis quelques temps sur une autobiographie, enfin pas une autobiographie, ou peut-être une autobiographie, enfin quelque chose, un projet qui raconterait ta vie en tout cas.
Oui, oui, oui. Oui.
Tu en es où?
Des choses. Et,
Je m'y ferai jamais.
Mais en fait, ce sont des chapitres, ce n'est pas un truc continu, ce sont des chapitres. Je suis à RG pour l'instant.
Donc tout petit alors. Ah non, déjà assistant berger.
Oui, oui. Voilà. Donc, mais ce sont des chapitres courts. Je pensais raconter ça pendant 300 pages, mais c'est chiant. Donc je préfère rester avec des chapitres parce que c'est trop compliqué. Et puis ça devient égocentrique, etc. Plutôt une série, entre guillemets, d'anecdotes assez fortes sur des passages de personnages qui m'ont. Tu es dedans, d'ailleurs.
Ah oui?
Sur des personnages qui... Mais c'est dans 6 ans, parce que c'est très très vite. Et je t'ai connu récemment. Donc... Bon. Et voilà, donc...
Il y a 13-15 ans. Enfin, bon.
Et donc, voilà, je suis là. Mais c'est dans un style... Voilà, je suis en train de faire ça. Et j'écris aussi quelque chose qui est assez rare, parce que j'ai appris ça aussi, à écrire, avant de dessiner. Et voilà. Mais ce sont donc des chapitres qui racontent un peu pourquoi... Pourquoi la bande dessinée, justement, et pourquoi j'aime pas en faire, pourquoi j'aime bien en faire, pourquoi il y a des hauts et des bas, pourquoi l'humour, c'est plus difficile que le réalisme, pourquoi, etc., etc. Et à publié. Travers, comment?
C'est publié ou...
Non, je suis en train de...
Ce sera un livre, ça sera...
Oui, un livre, avec des pages, et pas en couleur, avec noir et blanc, mais que je vais choisir moi-même l'éditeur, pas donner ça, parce que je veux donner ça, et peut-être l'auto-éditer ou quelque chose comme ça. Parce que sinon, on tombe dans des circuits et je n'ai plus tellement envie d'entendre des remarques, qu'on ne m'a jamais faites d'ailleurs, mais je prévois déjà des remarques. Parce qu'un éditeur, il faut toujours lui dire oui à un certain moment. Quand il fait une remarque, on lui dit oui. Et puis après, il est content, parce que c'est comme dans la publicité, il y a toujours des art directors qui disent oui, ici, tu ne changerais pas. Juste. On fait juste ça, comme ça, il est content, et le reste, on a carte blanche. Donc, il faut toujours un peu. Donc, mais pour ça, comme c'est un bébé que j'aime bien, je ne veux pas que quelqu'un intervienne dans cette. Voilà. Mais c'est humoristique.
Oui, c'est ce que je te demande. Oui. Et c'est au-delà de l'anecdote, tu théâtralises un petit peu, non?
Oui, oui, ouais. C'est ça. Ouais. Mais je n'y vais pas avec le dos de la cuillère au niveau de certaines personnes.
Qui Les noms.
Hergé, par exemple, il casse les pieds.
Ah oui, mais pas ton rapport à lui.
Non,
ce qu'il
c'était
est devenu,
pas,
quoi. La statue qu'il est devenu, c'est ça.
Il a fait du trou, hein, lui. Mais quand même, ses rapports de Domi Vallée, ce style, et cette forcée éducation en Belgique dans les collèges catholiques, etc. Hergé, ça, c'était la bande dessinée, tout ce qui était à côté était subversif, etc. Et d'autres séries aussi. Et voilà. Donc, mais je parle des années. Il y a longtemps, les années 60.
Mais c'est drôle. C'est des choses que tu ressentais à l'époque où tu travaillais avec lui déjà, que tu mettais
dans
en sommeil. 4,
moi, je n'ai pas travaillé
presque
avec lui.
Pas,
j'ai été engagé par lui pour travailler sur Tintin et l'Alphard. Il m'a vu, il est tombé malade, il est mort. Donc, je n'ai jamais pu travailler sur Tintin et l'Alphard.
Aucun lien, évidemment.
Comment?
Aucun lien.
Voilà. Donc. Et Jacob, c'est la même chose, il m'avait téléphoné parce qu'il cherchait pour continuer les trois formules du professeur Sato. Et je crois que dans les mois à venir, il est mort. Et je crois que j'ai encore un troisième exemple, mais il est mort aussi, mais je ne sais plus qui c'était. Donc,
par contre, Jacques Martin vit toujours et t'as travaillé aussi.
Mais il ne m'a jamais téléphoné.
Ah bon, d'accord, ça va.
Mais, Quoi? Non.
Ben oui, c'est pour ça que je dis ça. Oui.
Il y a trois semaines, il y a un type de chez Casterman qui m'a téléphoné et je voulais savoir un renseignement, qui s'occupe. Non, il m'a dit, il cherche un dessinateur pour Alix. Non, Lefranc, qui est une très belle série actuelle, bien dessinée, joyeuse, etc. Il me dit, je pensais que c'était pour ça que tu téléphonais, que tu as peut-être envie de reprendre Lefranc. Mon avis, Martin n'en a plus pour très longtemps.
Bien.
Donc, on est passé à l'euro en plus. Alors.
Donc, voilà, pour Hergé, ben voilà, je n'ai pas. Mais je l'ai surtout connu hors studio Hergé, c'est-à-dire comme quelqu'un qui travaille avec Bob, avec mon père, etc. Mais non, pas particulièrement.
Et tu m'as dit une fois qu'il te faisait peur quand tu étais enfant. Un peu, disons que tu le craignais, quoi. Disons
mais,
pas
mais,
peur, mais tu le craignais.
À Bruxelles, la bande dessinée, les gens étaient en costume, avec des grosses voitures. Moi, je me suis dit, mais la bande dessinée, ils étaient tous. Bien habillé, les années 50, les années. Si tu dis, tiens, la bande dessinée, moi je pensais que c'était avec une écharpe, un béret, une grande farde, des mouches qui suivent, enfin quelque chose de. Non, c'était des gens assez chic, les femmes étaient chic.
Enfin, au Lombard, parce que chez Dupuis c'était.
Ça, je ne connaissais pas. Dupuis était interdit à la maison, donc si j'ouvrais un franquin, je me faisais tabasser. Mm-hmm. Et fort, hein, fort. Donc voilà. Oui, la Belgique était coupée en deux. Il y avait les lecteurs de Spirou et les lecteurs de Tintin. Et voilà. Mais Hergé me faisait peur.
Tu le craignais plus que Jacobs, par exemple. Oui, tu m'avais dit ça une fois.
Et Jacobs, c'est un type marrant. Ça.
Parce qu'il ne se voyait pas dans ses histoires. Donc c'est assez paradoxal. Parce que...
Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, Benoît.
Non, passons à autre
chose.
Allez,
je veux dire...
Ouais.
Mais je vous conseille de lire bientôt
ton autobiographie. Voilà, c'est pour ça que j'en parlais, oui.
Et là, je vais décortiquer.
Tu parles de Spielberg aussi? Non, quand même pas.
Un petit peu, mais ça.
Ah bon, secret, d'accord. Hein, on regarde pour la prochaine fois.
Tu es un type pas marrant du tout. Bon.
Est-ce que l'expérience aussi, je continue sur toi, est-ce que tu es sur la lancée, l'expérience de spectacle un peu que tu avais fait lors de l'expo. Tu es prof de bande dessinée, ce qui est important.
Une demi-journée par semaine.
Ça. À Sint-Lucas, à Bruxelles.
Oui.
Et donc, dans le cadre de. Tu étais venu me voir pour qu'on fasse effectivement une exposition sur ton école et du coup c'est devenu un spectacle.
Oui, avec Marix. Oui.
Comment devenir auteur de bande dessinée en 15 minutes.
Grand auteur de bande dessinée.
Est-ce que ça a été une expérience aussi. Enfin justement, comment faire rire. Il y a vraiment des choses très différentes de comment faire rire en bande dessinée, comment faire rire une salle. Ce n'est pas du tout la même chose.
Il y a deux solutions. Alors ça rate complètement ou alors.
Là ça avait plutôt marché. Mais...
Et je me suis pris au jeu, je veux dire, mais ça demande, ça a pris, je pense que vous avez parlé du supermarché, etc. C'est aussi une idée qui s'est créée en un quart d'heure, et puis ça a pris 6-7 mois de travail pour fabriquer toute la classe, qui était une classe comme dans les années 60, avec les bancs scolaires.
L'odeur de Javel.
Comment ?
L'odeur de Javel et de banane pourrie.
Oui, l'odeur des plantes un peu fanées, les cartes, etc. Le roi Baudouin et la reine Fabiola, qui étaient nos... Parce que nous sommes une monarchie. Et voilà, donc... plus les gens qui devaient s'asseoir sur les bancs d'école, ils recevaient un petit livre, avec, ils devaient faire des exercices, et en 15 minutes, s'ils réussissaient à répondre aux onomatopées, à résoudre un synopsis... et à suivre le cours de DIA, parce qu'il y a toujours un cours de DIA dans une école, donc on regarde toujours des DIA. Et si tout ça était... Il recevait un cachet et était déclaré grand auteur de bande dessinée. Mais je n'ai pas encore eu de suite de ça. Mais donc, c'est voilà, tout un spectacle. Et ça change un peu de la planche, mais...
J'ai fait de la radio aussi, un petit peu.
Oui. Oui, enfin, un peu de tout. Et maintenant, je vais en faire un peu de cinéma aussi.
Oui.
Ça, j'en fais souvent, mais un peu de cinéma. C'est-à-dire, je suis à l'écriture d'un film sur... je ne vais pas raconter, parce que un projet, c'est toujours difficile.
Bon, on ne raconte pas. Voilà. Mais pourquoi justement... Là, je me tourne vers les Requins Marteaux aussi, qui ont développé ces projets, on a dit, les expositions. Il y a le Goûter Ferraille aussi, qui est un projet que peut-être un jour on verra en Angoulême, on en parlera une autre fois, mais... ce projet de film, comment est-ce que ça... La bande dessinée, vous suffisait plus pour dire certaines choses ou pour vous, tout simplement, vous étonner vous-même? Comment ça s'est passé?
Bon, mais en fait... c'est vrai, on fait de la bande dessinée, mais le point
Le dénominateur commun à tout ça, c'est que c'est surtout l'envie de raconter des histoires. Alors ça peut se faire soit en pièce de théâtre, soit en BD, soit en illustration, soit en film, enfin bref. Et comme on n'est pas cantonné juste au livre, cette structure nous permet de nous exprimer dans un paquet de médias différents. Mais sinon, pour rebondir sur ce que disait Johan, c'est vrai que l'éditeur, il faut souvent lui dire « oui, 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 oh oui, 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 oh oui, c'est trop bon ». Je pense notamment à Marc Pichelin, qui devait être présent ici ce soir. Marc Pichelin, un grand homme qui a fondé plus ou moins cette association, les Requins Marteaux, sur... Il s'est inspiré d'un système pyramidal qui a fait ses preuves. Malheureusement, maudite Europe, eh bien, il vient d'être incarcéré. Il sert une peine de 3 ans au pénitencier de Narbonne. Ce qui fait que nous assurons l'intérim en attendant.
C'est toujours une position difficile d'assurer l'intérim, en effet.
Oh, c'est lui qui a une position difficile en ce moment.
Ah oui, d'accord, mais je ne veux pas le savoir. Il y a des enfants dans la salle. Peut-être qu'on pourrait, avant de voir le film, je propose qu'on parle après le film, mais est-ce qu'il y a des questions d'ores et déjà contre cette conversation informelle?
Quelqu'un qui aurait pas mal de culot, quand même.
Non. Oui. Ah.
Bonjour, bonsoir. Je suis un heureux abonné du supermarché Ferraille. Je me suis abonné au Salon du Livre 2005 et je n'ai reçu qu'un numéro. Alors, est-ce que c'est annuel, semestriel?
Je ne suis pas autorisé à parler d'une affaire en cours de jugement.
Confère une incarcération.
Mais sois patient, ta patience sera récompensée, crois-moi.
D'accord, ouais, je suis patient, il n'y a pas de...
Tu as eu un numéro à Nord, en plus tu nous as dessiné, on va pas te demander des royalties, donc surtout ne te plains pas.
Je me plains pas. Une autre question dans la salle?
Je propose qu'on voit le film, donc entre quatre planches, on en parle juste après, puis on reparle un tout petit peu après ensemble.
D'accord.
Je m'appelle Samy. Je suis dessinateur de bande dessinée à succès. Et dans quelques minutes, je vais mourir. Mon seul crime, après tout, c'est d'avoir voulu m'arracher à ma condition, d'inscrire mon nom au panthéon du 9e art. Et pour cela, c'est vrai, j'ai menti, j'ai triché.
Ta fiole.
Écoutez, ma chère Clara, peut-être que le public a tout simplement bon goût.
Un chat et une souris qui parlent et se comportent comme des êtres humains. Où êtes-vous allé chercher cette idée complètement délirante?
Vous savez, ma chère Clara, l'art est partout. Il est là, il est là, il est là. Il est même dans cette salade de riz. Ah tiens, monsieur le ministre, quelle bonne surprise.
Bonsoir, Samy.
Bah, c'est une bonne soirée.
Oh, oui.
Vous êtes déjà allé au Zaïre? C'est des gens complètement différents. C'est le rythme qui les tient.
On parle d'une prochaine adaptation cinématographique des aventures de Poupinou et Ratafiole. C'est pour le moins inattendu.
Vous savez, Clara, il y a pas mal de choses inattendues dans la vie. Regardez.
Tu sais que t'adores, viens ici, toi.
C'est moi qui t'adore.
Oh, ce mec est génial.
C'est toi qui est génial.
C'est toi le meilleur.
C'est toi le meilleur.
C'est moi le meilleur.
C'est qui le meilleur?
Oh, c'est toi le meilleur.
C'est toi le meilleur.
J'adore.
Oh, viens par là.
Vous savez qui c'est, Samy? C'est le plus grand artiste que j'ai jamais connu.
Vous savez quoi, Clara? Ce mec est un être exceptionnel.
Qu'est-ce qu'on fait après? On va en boîte?
J'espère, oui.
Dites-moi, Samy, c'est quoi cette histoire de Zaïre?
Je vous ai parlé, c'est du Zimbabwe. Vous savez là-bas.
Monsieur, on vous demande au téléphone.
Oui, allô, j'espère que c'est important.
Bonjour, monsieur le voleur de BD. Ceci est ce que vous avez fait.
Vous m'avez volé Poupinou et Ratafiole. Et vous allez souffrir. Souffrir atrocement.
Comment ai-je pu en arriver là? Le passé vous rattrape toujours. Et mon terrible secret va bientôt apparaître au grand jour. J'allais sûrement perdre tout ce que j'avais et retourner à la case départ. Oh mon Dieu, faites que je ne revive jamais cet enfer.
Samy, dans mon bureau, immédiatement.
Super. Je vais pouvoir lui parler de mon nouveau projet.
Qu'est-ce que c'est là? Soulaja! Soulaja! Assieds-toi, je vais. Quel est ce délégo? Pas tout à l'heure, mais gros.
C'est.
Voilà, Soulaja.
Samy, comment ça va?
Bonjour, Francky. Voilà, donc, comme promis, je vous ai amené mon projet. Donc, c'est un projet de bande dessinée d'aventure dont le héros est Sam. Alors, Sam, c'est lui. Sam est policier. D'accord. Et son coéquipier, c'est un petit singe, tout petit, tout rigolo, tout rapide. Et,
ça a l'air vraiment génial, ce projet. Hein. Tu es vraiment un artiste, toi. Et moi, les artistes, je les adore. Mais les artistes, le public, tu sais, des fois, tout ça, ça fonctionne pas vraiment, vraiment. Enfin, ça, le public, c'est un peu comme si c'était une femme, tu vois? Une espèce de maîtresse insatiable. Ah, ah, c'est trop bon! Ah, le public! Ah, je peux pas, là, je peux plus avec ce que tu me proposes. Ça ne fonctionne pas, tu comprends? Alors, je vais devoir te laisser partir.
Comment ai-je pu en arriver là? Ça y est, c'est fini pour moi. C'est fini pour Samy. Une étoile s'éteint dans le firmament du 9e art. Je remercie le ciel de ne pas avoir infligé ce triste spectacle à celui qui m'a tout appris du métier. Alfonso Mendoza, le plus grand génie qu'ait connu l'art séquentiel.
C'est ça tu appelles du bande dessinée? C'est ça tu appelles du bande dessinée? Moi j'ai un autre mot, size, size. La 9e art n'a pas besoin que tu viennes les souiller de tes doigts boudinés de petits fonctionnaires. Écoute-moi bien, Cloporte. Écoute-moi bien. L'art est partout. Il est là.
Mon vieux maître avait raison. Relève la tête, Samy. L'art est partout. J'ai une idée. Je vais faire une BD. Une BD qui parle d'un pigeon. Un pigeon qui porte son regard sur la société. Ça pourrait être intéressant. Ils seraient deux, voilà. Ils seraient deux, ça serait un couple. Ça serait beaucoup plus intéressant de s'épurer sur les deux. Ça y est, je vois. Là, je tiens le truc. C'est l'histoire d'un équipage. Ils sont dans un avion, ils peuvent pas atterrir. Mais ils ont vraiment envie de profiter du monde. Et du coup, ça crée des tensions. Et là, il y a plein de rebondissements.
Thank you.
pourquoi une BD sur l'infiniment petit? On observerait les cafards s'organiser en société. Ça serait super éducatif. Je pense qu'il y a des gens à qui ça plairait, ça.
Et pourquoi pas une bande dessinée avec un verre à whisky? Il aurait des bras et des jambes. Et il s'appellerait... Il s'appellerait Whisky-Ki. Whisky-Ki. Whisky-Ki, le marin whisky. Le marin whisky. Whisky-Ki. Whisky-Ki, le marin whisky. Le marin whisky. Whisky-Ki.
Oh, pardon. Qu'est-ce qui vous arrive?
Mais vous êtes Samy! Je suis un de vos plus grands fans.
Hein?
Oh, ben sans l'or, c'est complètement incroyable. Parce que moi aussi, je fais de la BD. Si, si. Des fanfandines. Ça s'appelle Pompinou et Ratafiole. J'ai tout fait moi-même. Hein. Attention. Bon, évidemment, c'est pas encore au niveau professionnel. J'ai essayé d'être novateur tout en restant classique. J'applique des psychologies humaines à des animaux. Ce qui me permet d'aborder d'une manière caustique tous les travers de notre société. Je vous le donne.
C'est bon, je peux aller pisser, là?
Oui, super. Monsieur Samy, j'étais très content de vous rencontrer. Mais je dois filer. J'ai rendez-vous chez l'orthophoniste demain matin pour que je me rencontre.
Tu vas pas faire ça. C'est très mal.
Par contre, c'est pas mal de prendre un gros paquet de fric, non? Allez, vas-y. Personne ne le saura.
Je n'ai que deux mots pour qualifier un tel chef-d'œuvre.
Génial!
Samy, ce travail est absolument remarquable.
Merci. Merci, Francky. Tu sais, tout simplement tenter d'être novateur tout en restant classique. Et je me suis dit, Samy, pourquoi ne pas adapter des psychologies humaines à des animaux? Ce qui permettrait...
Je vous adore, vous, les artistes. Toujours en train de trouver une explication à tout ce que vous faites. Oh, dis donc, tu veux bien me faire une petite signature ici? Comme ça, ça sera fait. Une là. Encore une ici. Une là, une dernière, et puis celle-là. Merci, Samy. Samy,
you're back in the game.
Et si la BD en avait fini de rougir devant la littérature? Les records de vente des albums de Poupinou et Ratafiole l'attestent. Le secret de Samy? Être novateur tout en restant classique. Quelle trouvaille géniale que d'avoir doté des animaux d'une psychologie humaine. Samy peut ainsi aborder de manière caustique tous les travers de notre société. Alors, longue vie à Poupinou et Ratafiole et à leur génial créateur.
C'est pas possible! C'est pas possible! Envoleur! Envoleur! C'est pas possible! C'est pas possible! Envoleur! C'est pas possible, c'est mon idée!
Moi, je te crois.
Ah, j'ai entendu voix. Maman, maman, c'est toi? Tu es revenu du pays des morts, maman?
Non, mais moi, je peux t'aider à réparer cette injustice.
Ah, ah ouais? Et comment? Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire?
Ha 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 ha
con. Monsieur le voleur de BD, ceci ce que vous avez fait. Vous m'avez volé tous les poupillons et ratafioles.
Comment ai-je pu en arriver là? J'étais bel et bien dans le pétrin. Car à n'en pas douter, le véritable auteur de Poupinou et Ratafiole ne se contenterait pas d'un règlement à l'amiable. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, mes pas me conduisirent dans ce bar où naguère j'avais mes habitudes. Et pourquoi pas? Après tout, j'avais bien besoin d'un verre.
Pardon, monsieur. Je vous connais. Vous êtes Samy, la superstar de la bande dessinée.
Baise-la, baise-la.
Samy, nous avons bien assez de problèmes comme ça, ce n'est pas le moment. Alors s'il te plaît, reste concentré.
Mais au contraire, mec, on va prendre du bon temps. Et puis c'est bien connu, tu sais, avec les couilles vides, on réfléchit beaucoup mieux. Allez, on lui un verre.
Je vous offre un verre.
Mademoiselle.
Mademoiselle.
Samy, tu es revenu? Ils reviennent tous. Tu ferais mieux de ne pas trop t'accrocher. Je brisais plus d'un cœur, tu sais.
Cette ville est malade. Meurtre, trafic d'organes, grève des éboueurs, voiture incendie, tiens, arnaque à l'assurance, combat de chiens, combat de coq truqué, extorsion de fonds, délinquance juvénile en hausse de 5%. Ça ne s'arrêtera donc jamais.
On va voir que c'est dans un sens, c'est grâce à ça qu'on a du boulot.
C'est pas faux, Bob. Mais je me dis qu'il y a trop de chômage. C'est pas cher payé pour vivre dans un monde meilleur.
Qui te dit qu'on sera au chômage? On fera une formation. Un truc qui marche. Comme le toilettage pour chien. Chez Bob et Mitch. Toilettage pour chien.
C'est ce que j'aime chez toi. Tu t'es jamais abattre.
Eh, vaut mieux pas se laisser abattre qu'on est flic.
Ah, on rigole, mais on devrait pas. On a déjà 5 collègues qui sont tombés depuis le début de l'année. À vous, les gars.
Central appel voiture 3, central appel voiture 3, voiture 3, répondez.
Ici voiture 3, parlez, central.
Veuillez vous rendre 28 avenue François Gardier, un meurtre a été commis.
Cette ville est malade.
Alors, qu'est-ce qu'on a?
Bah, c'est maigre. On a retrouvé ça. Je vais l'envoyer au labo, mais à mon avis, il n'y a pas grand espoir. C'est du travail de pro.
Quel gâchis.
Ouais.
Quel gâchis.
Je suis à peu près certain qu'il s'est servi de ce crayon pour la tuer.
Regarde-moi ça.
curieux d'entendre les explications de ce monsieur Samy.
Vous allez peut-être enfin m'expliquer ce que je fais ici.
C'est mal. N'essaye pas de m'endormir.
Ah, il craquera pas.
J'ai une idée, mais avec le règlement.
Qu'est-ce que j'ai dans la main?
Une cigarette?
Non, le règlement. Mmh. Et maintenant?
Il a disparu.
Exactement.
Ah.
À toi de jouer.
Même ici, t'arrives à fourrer.
Méfie-toi. Ça sent le piège.
Ça sent la chatte, oui. Regarde ces nichons, mec. Attaque, attaque.
Que puis-je faire pour vous?
Mademoiselle.
Mademoiselle?
Vous êtes bien le célèbre dessinateur de poupées noires d'Afiole?
Oui, c'est ça.
J'aimerais tellement vous demander un petit autographe.
Vous appelez comment?
Monsieur le procureur.
Monsieur le procureur. Non, ça, c'est de quelle origine?
C'est égyptien.
Dieu, c'est lui, j'adore ça. Nous avons réussi. Nous avons réussi. Je suis vengé. Quel bonheur céleste. Ce grand jour, c'est à toi que je le dois. Et je voulais te remercier d'avoir réparé cette injustice.
De rien.
Qu'y a-t-il, petit photocopieur? Tu as l'air si mélancolique.
Tu n'as pas encore compris, espèce d'idiot. Je ne suis pas un photocopieur, mais une photocopieuse. Et si j'ai fait tout ça pour toi, c'est parce que je t'aime. Oh oui, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oui, oui, oui.
Samy, c'est tout bonnement incroyable. L'album de Poupinou et Ratafiole est en train d'exploser. Tous les records de vente.
Okay.
Regarde-moi ça. Regarde. Et puis tu sais, j'ai une idée. Un album de Poupinou et Ratafiole en prison. Je pense que ça fait un carton.
Francky, qu'est-ce que tu racontes?
Et regarde ce que je me suis payé.
Qu'est-ce que tu fais, Francky?
Regarde-moi ces bottes. Elles sont super, non? C'est des crocos.
Elles sont super, tes bottes. Mais je t'en conjure, Francky. Promets-moi une chose, c'est de me sortir d'ici. Sinon, je vais devenir complètement cinglé.
Samy, ne t'inquiète plus. Je t'ai trouvé le meilleur avocat.
Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui te dérange? Non, mais ma parole, je suis encore tombé sur un de ces petits trous du cul coincés qui pense qu'une personne issue d'une minorité ethnique ne peut pas accéder à des postes d'importance, comme
j'ai...
médecin.
Non mais du calme, j'ai rien dit.
Physicien nucléaire ou avocat. J'ai dû me battre pour devenir ce que je suis aujourd'hui, et deux fois plus que tous les autres. Ah ça oui, j'ai dû trimer, lutter contre l'injustice quotidienne. Mais je me suis jamais plaint, jamais.
Je vous ai dit quelque chose.
Et toi, espèce de malade détraqué, tu viens jusqu'ici pour me dire que je suis pas assez bien pour toi. Mais qui a par moi accepté de te défendre? Alors tu baisses d'un ton.
Mais je suis innocent.
Super. Tu crois que tu pourras me refaire pour le procès?
Mais je suis vraiment innocent, maître.
Ah, c'était moins bon.
Silence! Donc, si l'on observe deux images de Poupinou et Ratafiole, de prime abord, tout semble normal. Mais si l'on superpose ces deux images, on obtient le mot LSD.
Oh! Objection!
Objection rejetée.
Professeur Weston, selon vous, est-il possible que ce crayon, pièce à conviction numéro 64, ait pu tomber de la station Mir, traverser la stratosphère et atteindre une telle vitesse qu'il aurait pu traverser la tête de la victime?
Non, c'est tout à fait impossible.
Oh, plus de questions.
Samy travaille pour Ferrail Publication depuis plus de 10 ans maintenant. Est-ce pour autant qu'il n'est pas impliqué dans cette sordide histoire de meurtre? Je ne sais pas. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le nouvel album de Poupinou et Ratafiol est dans les bacs en ce moment même. 45 pages, tout en couleur, et seulement 15,99€.
Vous l'avez dit, les faits sont là. Mais regardez mon client, regardez-le bien. Oui, c'est vrai, il a une tête d'assassin. Mais qui sommes-nous pour juger? Moi-même, je suis coupable. Coupable de ne pas avoir dit plus tôt mon amour à la femme que j'aime. Emmanuela! Je te le dis ici solennellement et devant témoin. Veux-tu m'épouser dès que j'aurai divorcé?
Oui.
Oh mon Dieu, je vais crever! Je vais crever, ça y est, je vais crever!
Oh oui, divine! Super! Oh super!
On s'apprête à exécuter Samy le créant! On s'apprête à exécuter Samy, le célèbre et fameux créateur de Poupinou et Ratafiol.
Ah mais non! Mais non! Mais c'est moi! Mais
Samy,
c'est moi!
Le créateur de Poupinou et Ratafiol. Samy, le créateur de Poupinou et Ratafiol.
Mais c'est moi!
Samy,
mais c'est moi!
Le célèbre créateur de Poupinou et Ratafiol.
Mais non! Mais c'est moi!
Samy, le célèbre créateur.
Bon voyage, mon fils.
Vite! Un téléphone!
Allô? Vous êtes sûr? Je vais le faire, mais ne parlez pas sur ce ton. Ok, je vais le faire. Mais je fais ça pour dépanner, moi.
Merci, Doc. Vous avez fait du super boulot.
Non, non, merci à vous. C'est formidable ce que vous avez fait pour une petite pensionnaire.
C'est moi qui leur dis merci. Vous savez, docteur, j'ai tellement appris au contact de ces enfants. Durant mon séjour à la clinique du professeur Schmidt, tous ces enfants malades en phase terminale m'avaient donné une formidable leçon de vie. Et si je m'étais fourvoyé sur les sentiers de l'envie et de l'ambition, tout ça était bien loin à présent. Il me fallait m'éloigner de la grande ville et de ses turpitudes afin d'accomplir ma nouvelle destinée. Désormais, je poursuivrai ma carrière de dessinateur avec pour seul.
Au secours. Au secours. Rendez-vous en enfer.
Ah, oh non, dites vite. Oh mon Dieu, Samy. Mais tu es blessé.
C'est juste une égratignure.
Ah!
Mourir du tétanos à notre époque, c'est vraiment trop bête. Mais ta mort ne sera pas vaine, Samy. J'en fais le serment.
Chaque année, 8 millions de personnes meurent du tétanos. Aidez-nous! Adressez vos dons à la Fondation Poupinou et Ratafiole contre le tétanos.
Il y a quelques acteurs qui sont là. Peut-être. Donc Fred Felder, qui est Francky Ballonnet et co-scénariste. Mais montez, peut-être c'est mieux.
Ok. Là, ok.
Ah, en revoyant ces images, eh bien, je me rappelle cette formidable aventure qu'a été ce tournage. Quelle aventure humaine. Bon, évidemment, je n'ai pas voulu venir les mains vides. Je vous ai amené deux petits acteurs. Parce que vous savez, le métier,
bonsoir.
Le cinéma, c'est... Eh bien, c'est les rencontres, le cinéma, finalement. Beaucoup de rencontres, souvent improbables, plus rarement fructueuses. Alors, je crois que... Kamel, tu interprétais le rôle de Samy, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, oui.
Ouais. Et toi, tu interprétais le rôle de Bob, c'est ça, Bob le poulet. Mais je crois aussi, il m'a semblé le ministre, c'est vous ou pas ?
Oui, je suis aussi le ministre. Excusez-moi, je suis un peu ému. Cette soirée est un peu entachée par l'incarcération de Marc Pichelin, fondateur des Requins Marteaux. Son numéro d'écrou, eh bien, c'est le F122C, pénitencier de Narbonne. Si vous pouvez lui écrire un petit mot ou lui faire un petit dessin, je pense que ça lui ferait très plaisir et un grand bien.
On pense à toi, Marc. Et on te dédie ce film. Alors, je crois me souvenir que, comme sur le tournage de la série télévisée de Poltergeist, il y a eu quelques petits ennuis, comme si le film avait eu un jinx, comme on dit en anglais, comme une sorte de malédiction.
Ben, malédiction, ouais, c'est ce qui a été un petit peu... on appelait ça une malédiction. Il y a eu aussi un facteur malchance aussi. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Moi, je pense, en tout cas, moi, je suis, de par mes croyances personnelles, je pense à une malédiction, en tout cas.
En tout cas, il a fallu mettre un mot sur ce qui nous est arrivé.
Voilà, donc on va appeler ça une malédiction. Donc déjà le premier jour, retard dans le démarrage du tournage. Le second jour, une des comédiennes qui interprète le juge, qui elle est, a des problèmes sanguins, s'est fait voler son médicament. Son sang s'est coagulé dans la nuit.
Il a tourné en Grèce, il a voilà, complètement
tourné très épais. Et ben, elle a pas pu tourner le second jour, ce qui fait qu'elle apparaît très peu dans le film. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le monteur qui est devenu aveugle à la fin du tournage. Donc on a dû tous s'y coller un petit peu, donc devenir monteur à notre tour, alors que c'est pas forcément non plus
pendant la nuit,
dans laquelle on brille forcément. Alors bon, évidemment ça se ressent pas sur la restitution. Après il y a beaucoup de choses comme ça, et puis aussi le nombre de personnes qui sont présentes ce soir, puisqu'on était quand même au départ combien, 25. Il n'en reste plus que 3. Est-ce que c'est de la chance, est-ce que c'est le hasard, je sais pas. Donc voilà, il y a tout. Ça n'a pas été évident, mais malgré tout, il y avait une bonne ambiance sur le tournage, et ça se ressent aussi dans le film, je pense.
Mais c'est bien que tu parles de ça, parce que je pense qu'on s'est quand même vraiment, vraiment bien amusé en faisant ce film, et je pense que ça va se voir à l'écran.
Je crois que tu as oublié de mentionner cette terrible épidémie de gastro aussi.
Ouais, la fin de la soirée couscous qui.
Ça, c'était plutôt rigolo. Donc, enfin, maintenant, c'est rigolo.
Avec le recul, c'est sûr. Mais c'est évident que le poste du catering, c'est vraiment un truc à mieux penser, à plus développer. C'est important, quand même.
Et pourquoi pas en intérieur, la prochaine fois. Ouais. Ouais.
Après,
qu'est-ce qui s'est passé? Ça, là.
Beaucoup travaillé.
C'était ouais, très tard, tôt le matin, tard le soir.
Non, c'était une super aventure.
Ouais.
Moi, je pense.
Moi, je veux bien refaire un film, tiens.
Ben, moi aussi.
Bon, allez, j'en suis.
Qu'est-ce qu'on fait?
Oh, un film, peut-être la suite de ce film, puisque ça marche bien.
Ouais.
Ok. Ouais. Alors, peut-être que vous avez des questions. Ah, super.
Comment sont passés les tournages à New York?
Ah, excuse-moi, on n'entend rien du tout.
Une autre question, peut-être.
Comment se sont passés les tournages, enfin le tournage à New York? Je trouvais que les plans étaient absolument splendides.
Ben pour nous, c'était déjà vachement bien de partir comme ça avec toute l'équipe dans cette ambiance qui était vraiment
et
très sympa.
Budget.
Et puis faut, les enfants new-yorkais, vraiment un sourire vraiment incroyable. Et puis ils nous voyaient tourner comme ça, ils étaient vers nous avec.
Quand il y avait la bouche à incendie avec l'eau,
ouais, c'était dément.
Ces petites voix qu'on entend sur la bande originale, c'est parfois la voix des enfants de New York.
Voilà.
Question suivante.
Ah, je suis sûr qu'il y a des amateurs de cinéma ici, de grands cinémas, de films français.
C'est Rémi Julien qui a fait les
castings. Hélas, Rémi Julien, eh bien, vous savez que c'était le cofondateur des Requins Marteaux avec Marc Pichelin.
F122C.
Voilà, et je pense qu'il partage plus qu'une cellule maintenant. Rémi, on pense à toi. Une autre question alors peut-être? Ah, le jeune homme avec les cheveux.
Moi j'ai donc été très très ému par la prestation du méchant. Hein. D'ailleurs on ne connaît pas son nom, son prénom.
Alors son nom dans le film qui a été coupé au montage, c'est Vortex.
Ah, hein, Vortex.
C'est son nom de fanzineux.
D'accord.
Sinon il s'appelle Fred Latérade.
Fred Latérade.
Et c'est un gars, comme on peut le constater, qui vient du Béarn. Ça se voit assez facilement. Et qui travaille pour une... je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce collectif qui fait un catalogue d'art contemporain par correspondance qui s'appelle By Self. Et donc, ils ont... Non, mais c'est un
vrai
truc.
C'est vrai.
Ça pourrait vous intéresser, je pense, ici. Et donc, vu les commandes qu'ils reçoivent, il a le temps de se consacrer à son hobby, qui est le cinéma amateur.
Et donc, en fait, j'avais une question. C'est une affirmation. J'ai regretté qu'on ne développe pas assez l'enfance de Vortex.
Oui, il se trouve que dans la première mouture du film, tout était axé sur le fan.
Ah.
On a fait 4 screen tests. Ça ne fonctionnait pas du tout. Le public était à fond sur la journaliste, un peu sur Kamel. Donc, on a changé la fin, quoi.
D'accord. Peut-être pour la suite. Non, parce qu'il est mort.
Garde le micro, non?
Alors, Bon, en tout cas, ça nous a fait plaisir de vous faire plaisir. Voilà, je sais pas. J'ai plus d'eau, on peut s'arrêter là.
Ouais. Merci à vous.
Merci. Merci, bonsoir.
Vous savez, c'est la plus belle récompense qu'on puisse recevoir, c'est ces applaudissements. Eh bien, je suis à Austin, c'est rue Montgolfier, chambre 106. C'est jamais fermé à clé. Voilà.
Oh, merci. Bravo. C'est une petite photo. Merci.
Bien, merci d'avoir assisté donc à cette rencontre et puis à la projection de ce film. Le 29 mai, il y aura une rencontre thématique également ici à la BPI, autour cette fois du feuilleton dans la bande dessinée, depuis les débuts jusqu'au manga. Et nous aurons des invités assez différents de ce soir. La soirée était particulière, le thème s'y prêtait. Peut-être on sera plus sérieux la prochaine fois, mais en tout cas merci d'avoir été avec nous ce soir. Au revoir.